D'ailleurs, c'est la bracha où on déclare que nous savons que Dieu ressuscite les morts, qu'il y a un olam haba, et que l'humanité, être collective, arrive à olam haba, c'est une certaine foi. Mais qu'il y ait triat hametim pour chacun, que chacun arrive à ce olam haba, ça c'est le problème d'Isaac. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit là? Vous avez bien compris tout le monde? C'est pourquoi la Gemara dans Sanhedrin commence par affirmer « Kol Israël yishlaim chelek l'olam haba ». Mais quelle est cette croyance qu'il y a l'olam haba? Elle passe par une autre, triat hametim. Parce que s'il n'y a pas triat hametim, à quoi me sert qu'il y a l'olam haba pour les autres? Et pour qui? Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit là? Non, hein, j'ai pas l'impression. Et pourtant, c'est tellement simple, ma Gemara. Voilà, j'ouvre une parenthèse. La Mishnah, dans le 11e chapitre de la Gemara de Sanhedrin, dit ceci. « Kol Israël yishlaem chelek l'olam haba. Ve'elu she'elaem chelek l'olam haba. » Tout Israël a part au monde à venir. Et voilà ceux qui n'ont pas part au monde à venir. Il y a quatre catégories. Une de ces catégories, c'est celui qui dit « En triat hametim min haTorah ». On a l'habitude de traduire, c'est la traduction la plus simple, superficielle, que la Torah n'enseigne pas la résurrection des morts. Effectivement, il n'y a pas d'allusion, semble-t-il, explicite à la résurrection des morts dans la Torah. D'ailleurs, il n'y a pas non plus d'allusion explicite à olam haba. Il faut le comprendre. Lorsqu'un hébreu lit ce texte, il sait qu'énormément d'enseignements se basent sur le fait que Vadaï, évidemment, il y a olam haba et triat hametim. Ça dépend qui lit ce livre. Mais quoi qu'il en soit, la Torah n'en parle pas. J'explique tout de suite pourquoi elle n'en parle pas. Et dans ce 11e chapitre, la Gemara de Sanhedrin, il y a une grande discussion entre les Sadducéens et les pharisiens. Les Sadducéens ne croient pas qu'il y a olam haba et triat hametim parce que ce n'est pas dit en clair à lecture universitaire dans les textes de la Bible. Et ils n'ont pas de Torah Shebaal Peh. Et alors, chaque fois que les pharisiens leur répondent pour leur donner une preuve, ils citent un drash. Alors que le pshat, lui, parle d'autre chose. Hein? Alors, si vous voulez, je peux vous donner un exemple, mais ça me prendrait trop de temps. Prenez le 11e chapitre de la Gemara Sanhedrin et regardez le vicouar entre les pharisiens et les sadducéens. Et alors, je vais vous dire pourquoi la Torah n'a pas parlé de triat hametim ou de olam haba. Ça, au moins, vous comprenez qu'il s'agit de triat hametim ou olam haba. Je ne traduis pas, parce que si je traduisais en français, il faudrait discuter deux heures, qu'est-ce que ça veut dire en français? Mais en hébreu, vous comprenez. Parce que si, je veux dire comment j'ai l'habitude de l'exprimer de façon simple, si la Torah avait à me dire d'abord, sache qu'un olam haba et qu'un triat hametim pour y arriver, elle n'a rien d'autre à me dire. La Torah ne parle qu'à ceux qui vont à olam haba et qui savent qu'on arrive à olam haba, pas triat hametim. Elle n'a rien à dire aux autres. D'abord, le béné Israël. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit là? Pas encore. Alors, je vais vous donner un exemple. Si je veux donner un manuel du pompier au pompier, et que le manuel commence par dire « Oh, monsieur le pompier, sache que le feu brûle, et sache que l'eau éteint le feu », c'est pas un pompier que je parle. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Alors, s'il faut que je dise à Israël « Sache qu'un olam haba » et qu'il faut la résurrection individuelle pour entrer dans l'olam haba, qu'il faut d'abord que j'enseigne ça, c'est pas Israël que je parle. La Torah ne s'est révélée qu'à ceux qui vont à l'olam haba depuis Adam Harishon. Est-ce que c'est clair? Les autres, il faut leur faire des cours de catéchisme, c'est-à-dire les convertir à la croyance des Hébreux qui ont reçu la Torah. Mais la Torah, je vais parler latin, c'est le Vademekom, c'est le Shulchan Aruch de ceux qui vont à l'olam haba. C'est le guide touristique, comment on arrive là-bas. Mais on ne donne ce guide qu'à celui qui sait où il va. Je ne sais pas si c'est clair. C'est plus clair. Top. Alors, en tout cas, ce que je veux dire, c'est ceci. Nous disons de Dieu qu'il est Mechaya Metim dans cette bracha de Tagibour. Vous voyez que le problème de Yitzhak, okay, c'est est-ce que Dieu, qui est le Dieu de l'univers, s'occupe de moi pour mon problème, est-ce que j'arriverai à olam haba par triat hametim ou pas? Vous avez compris pourquoi c'est Isaac qui pose la question du destin de l'individu. Est-ce que c'est clair? Pas encore, hein? Mais vous devinez qu'il y a un problème. Et alors, je vais vous l'expliquer d'une autre façon, vous me direz si c'est suffisamment clair. Que le commencement de l'histoire humaine est un sens, il y a une histoire, ça a un sens. Que l'achèvement de l'histoire humaine est un sens, il y a une histoire, ça a un sens. Mais que tous ceux qui ont vécu entre le commencement et la fin, qui ont été traversés par le vent de l'histoire, comme disent les Apicursi, okay, ce que eux est un sens, et que ça ne les ait pas traversés de manière impersonnelle, et qu'il y a que le commencement et la fin qui a un sens, ça c'est le problème d'Isaac. Pourquoi ? Parce que lui n'est ni le commencement ni la fin, il représente l'individu entre le commencement et la fin, il est le fils du père et le père du fils. Que le père ait un sens, c'est le père. Que le fils ait un sens, c'est le fils. Mais celui qui n'est ni père ni fils, parce qu'il est fils de père et père de fils, ça c'est Isaac. C'est clair ? C'est plus clair, hein ? Vous voyez que pour rendre les choses claires, il faut des choses compliquées. Voilà, ça veut dire le choral individuel de l'individu dans la chaîne impersonnelle des générations, dans le flot de l'histoire, qui, en tant qu'histoire, a un sens par son commencement et par sa fin, donc est relié à Yitzhak. C'est Yitzhak qui dit Mechayam Etim, et c'est son histoire. Il ne devait pas naître, il est né, il devait mourir, il n'est pas mort. C'est son histoire. C'est clair ? Alors ça, c'est la Gvoura, est rattachée à Yitzhak. Bon, je ne dirai pas plus là-dessus, simplement je voulais vous signaler de l'importance du patriarche Yitzhak dans cette histoire, parce qu'en général, dans les yeshivot, dans le Beta Midrash, la figure d'Yitzhak est très négligée. Et tout simplement, on ne la comprend pas. J'ai même entendu des énormités dites par des gens de la yeshiva, que Yitzhak a une apparence féminine, il est passif dans l'histoire, enfin des ch'touyot, quoi. Alors qu'au contraire, il est le gibor. Et alors, vous voyez comment ça se relie à notre sujet. Okay. C'est ce que j'ai indiqué tout à l'heure. Il est le patriarche d'Eretz Israël, et c'est ça la Gvoura. C'est lorsque le choral individuel coïncide avec le choral collectif, et qu'on est capable d'être le véhicule de ce choral individuel pour la collectivité. Voilà la deuxième référence que je voulais vous signaler. Alors, ceci dit, nous allons aborder un des textes que je vous ai donné. Prenez le texte du Talmud. Certains d'entre vous l'ont déjà étudié, mais on va le reprendre. C'est la Gemara de Shabbat. Vous allez retrouver un certain nombre de ces principes tels que le Talmud les a formulés. Voilà, vous avez dans cette page-là, on vous a marqué le début de du texte qu'on va lire et la fin. Alors, je vais reprendre ce texte. Amar Rabbi Yochanan, Ken. C'est Rabbi Shmuel Bar Nachmani qui, au nom de Rabbi Yochanan, enseigne ceci. D'abord, il cite un verset du chapitre 63 d'Isaïe. Qui ata binu, car c'est toi notre père, qui Abraham lo yadarenu, car Abraham ne nous a pas connus, ve Israël lo yakirenu, et Israël ne nous reconnaît pas. Alors vous voyez, c'est une attestation du peuple d'Israël qui, dans le premier pshat que nous allons voir, s'adresse à Isaac, pour dire à Isaac, c'est toi notre père, parce qu'Abraham nous néglige, et Israël, qui est Jacob Israël, ne nous reconnaît pas. Ata Hashem avinu, dans la deuxième partie du verset, c'est toi Hashem, notre père. Regardez bien l'étude du verset. Dans la première partie du verset, il est évident que l'allusion est à Isaac. Ata avinu, et pas Abraham et Israël. Donc c'est Isaac. Deuxième partie du verset, « Ata Hashem avinu », c'est toi Hashem qui est notre père. Que s'est-il passé entre-temps ? Voilà comment la Gemara restitue ce qui se passe entre les deux parties du verset. « Ata Hashem avinu, goalenu, notre libérateur, meolam shemecha, c'est depuis toujours ton nom. « Ata Hashem avinu, goalenu, meolam shemecha » et tout ça est relié à la Gevura en Eretz Israël. Je ne sais pas trop vite toutes ces lectures. Alors je continue. Si c'est trop vite, vous m'arrêtez. L'Erati Labo, dans l'avenir, Yomar lo Kadosh Baruch Hu l'Abraham, Dieu dira à Abraham, Banecha Hatou, tes fils ont fauté. Hatouli, ont fauté contre moi. Amar Lefanav, il dira devant lui, Rebono Shelola, maître du monde, Imahu al-Dusha Shimcha, Shemecha, qu'il soit annulé pour la sanctification de ton nom. C'est un texte terrible. C'est-à-dire, lorsque Dieu dira à Abraham, tes fils ont fauté, d'après le contexte, on voit que Dieu s'attend à ce qu'Abraham plaide pour ses fils. Et Abraham est capable de plaider. Rappelez-vous l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Okay? Et qu'est-ce qu'il répond ? Ah, ils ont fauté. Bon, on efface tout, on recommence. Il marche, efface-les. C'est-à-dire, Abraham a fait un Israël. Cet Israël est disqualifié, il en fera un autre. Le commencement peut être le commencement de toute suite. Au commencement, c'est le commencement. Et après la suite, ça peut être la suite A, B, C, D du commencement. C'est clair ce que je dis là. Amar, après je vous dirai l'explication du Rav Kook sur ce texte. Alors Dieu s'est dit, Emar le Yaakov, je vais poser la question à Jacob, Dehavale tsar gedul banim. Jacob qui a eu la difficulté d'élever les enfants, parce qu'Abraham n'en a eu que deux. Tandis que Jacob, 12 de 4 femmes, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la difficulté d'être de Jacob, Tsar Gedul Banim. Il avait 12 problèmes multipliés par 4. Efchar débarré la Hamer Léou, parce que j'ai dit, peut-être qu'il demande, il plaidera, il priera pour eux, il demandera pitié pour eux. Amarle Banecha Hatou. Il dit à Jacob, tes fils ont fauté. Amar Lefanav, alors Jacob répond devant Dieu, Ribonon Shelola, maître du monde, Imachou al-Gushat Shimcha, qu'il soit annulé pour la sanctification de ton nom. Ça veut dire, on a fait un brouillon, et puis il n'a pas réussi, on va recommencer un autre, et ça recommence avec Abraham, on arrive à Jacob. Amar, alors Dieu a dit, L'aube et savait Arma, je n'ai trouvé de sens, de goût, ni chez les vieux, savez, comme Saba, Vélo et Dardaké et ça, et ni chez les Dardakim, chez les jeunes gens, les adolescents, un conseil. Amarol et Yitzhak, alors il dit à Isaac, Banecha Hatou, tes fils ont fauté, Hatouli, ont fauté pour moi. Amar les Fana, alors Yitzhak intervient. Rebono Shelola, maître du monde, Bana et Vélo Banecha, mes fils et pas tes fils. Lorsqu'ils ont commencé par dire nous ferons, avant de dire nous écouterons, au Sinaï, comme disons, Kolaché, Liberaché, Naase, Benishma, la deuxième fois, Karatalae, Benibechori, tu les as appelés mon fils premier-né, Arshav, Banaï, Velobanecha, et maintenant mes fils et pas tes fils, Verod, Kamachatou. Je veux revenir là-dessus. Ça veut dire, s'ils sont passibles de jugement, eux seuls, du monde entier, c'est parce qu'ils ont dit Naase Benishma. Et c'est quand ils ont eu ce courage, eux seuls, de dire Naase Benishma, tu les appelais mon fils premier-né. Alors bien sûr que ils ont pris ce pari avec le risque de fauter, d'assumer la faute. Alors tu les appelles mes fils à moi quand ils ont fauté, mais quand ils ont accepté le pari, tes fils à toi. Vous avez compris l'analyse, okay? Effectivement, c'est très important. Le monde entier juge Israël sur des réalités sur lesquelles personne n'est jugé. Regardez l'histoire contemporaine, à quel point elle démontre la mauvaise foi de l'humanité entière. Parce que tout ce qu'on reproche à Israël se passe, bégadol, partout ailleurs, personne ne bronche. Mais dès qu'il s'agit d'Israël, banecha hatou. Vous avez remarqué ça? Donc, alors vous voyez que les sages du Talmud avaient un diagnostic de nos problèmes à l'avance. Toutes ces agadot, tous ces midrashim, apparemment, c'est pas les contes et légendes d'Israël, c'est l'histoire d'Israël. J'espère que vous êtes déjà habitués à cette évidence. C'est pourquoi la chose grave, c'est la disqualification des rabbins qui ont prêté la main à ce qui est en train de se passer. Parce que ça veut dire, entre autres, qu'ils n'ont pas de Torah. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Vous pouvez le dire en mon nom d'ailleurs. Et vous leur direz que Et il va ouvrir leur livre. Ça s'appelle le Sefer Torah et le Sefer Lezora. En tout cas, je reviens au sujet. Mais Véhot Kamachat. Et en plus, non, je vous dis ça très sérieusement, okay, parce qu'il y a une énorme superstition dans le Kahal religieux en Israël et ailleurs, d'ailleurs, qu'il suffit d'avoir une barbe et un grand livre et une grande calotte pour croire que la Torah est là. Vous voyez bien que c'est faux. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis là. Je suis arrivé à l'âge où je peux me permettre de le dire. Hein. Alors, je continue. Alors, Isaac continue. Vérod, Kamachatou. Et en plus, combien ils ont fauté? Kamach notav chez la dame. De combien est l'âge canonique de l'homme? Shivim Shana, 70 ans. Dal Esrin, Delo, Anash, Aleu. Ça, je ne sais pas si je vais traduire. Personne n'est âgé de moins de 20 ans chez vous, là? Personne ne répond. Toi, oublie-toi. Alors, ça veut dire, bon, que jusqu'à 20 ans, l'âge de 20 ans, il y a un certain nombre de fautes qui ne sont pas jugées. Parce qu'il faut être adulte pour être adultère, par exemple. Vous savez, c'est la maladie des adultes. Il y a des fautes qui ne sont pas passibles du tribunal d'en haut jusqu'à l'âge de 20 ans. Alors enlève 20 ans. Pachouléou, Hamishim. Il ne reste que 50 ans. Dal, Esrim, Vechamej, des Lilouta. Enlève la moitié que c'est les nuits. Les nuits, les pauvres, ils dorment. Pachoulé, Esrim, Vechamej. Il n'en reste que 25. Dal Tartesre ou Palla enlève 12 ennemis des Tsalouye ou Michal ou des Betakise qui passent à la prière et au repas et à la vie. Okay. Il en reste 12 ennemis. Imata sauvé les Tkulam. Si tu les supportes tous, Moutav, c'est bien. Veimlav, et sinon, Palga Alay ou Palga Alecha. On partage. Toi, tu prends la moitié, moi la moitié. Ça, c'est le plaidoyer d'Isaac. Et alors, vous voyez, c'est Isaac qui plaide. Vous voyez, le gibor. Veim Salomar, et il s'adresse à lui en disant, et si tu trouves à dire Kulam Alay, et que tous, c'est moi qui les supporte, Ha Karibit Nafshi Kamer, j'ai déjà tout offert au sacrifice d'Isaac. Par conséquent, nous avons en Isaac une garantie de protection sur Israël. Et on ne peut pas mettre en doute les droits d'Israël sur Eretz Israël à cause d'une faiblesse de droit moral quelconque. Il y a eu le sacrifice d'Isaac. Voilà l'enseignement de cette source. Et alors, pas trouvé un brou. Alors, c'est là qu'ils ont dit « Kiata avinu, toi Isaac, c'est toi notre père. » Amar lahem Yitzhak. Yitzhak leur a dit « Al sheatem mekatzin li » Si déjà vous me faites des compliments, Kalsou la Kadjobaoru, regardez plus haut, ou Mahou il est où, Yitzhak Kadjobaoru. Il leur fait signe avec les yeux, c'est plus haut que ça se passe. Et avec ses yeux. Miyad, Nasu Anehem, Namahom, alors ils ont levé les yeux au ciel, Veomrim, ils ont dit, Ata Hashem, Abinu, Gualenu, Merlam, Shemecha. Je voudrais vous citer un verset qui concerne Jacob d'ailleurs, que il n'y a qu'en Eretz Israël. On peut dire que Dieu est notre Dieu. Je vais vous donner la source d'ailleurs. Je veux dire, tant qu'on est dans cette ambiguïté galoutique, on ne peut pas dire Elokeinu Melech Haolam. Il n'y a que. L'enseignement rabbinique à ce sujet, c'est le suivant. Lorsqu'on est Chutz La'aret, on passe à travers les sarim du peuple chez qui on se trouve, les anges tutélaires du peuple chez qui on se trouve. Et ça se traduit finalement par des choses apparemment banales, mais qui sont l'essentiel. On paye les impôts au SAR de la France si on est en France, de la Corse si on est en Corse, et du Maroc si on est au Maroc. Et alors cette espèce de relation au Dieu d'Israël, si on est en dehors des restes d'Israël, elle est ambiguë. Parce qu'elle passe par le génie de la nation considérée. Et je crois que c'est ça surtout. Le problème, qu'on paye les impôts ailleurs. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Alors, il va se poser un problème, c'est une petite parenthèse, il va se poser un problème pour la Maghbit. Le jour où les Juifs qui payent une partie de leurs impôts en Israël, enfin ceux qui envoient le dixième de ce qu'ils ont gagné chez les Goïms, en Israël, ça leur appartient, puisque le dixième, c'est quand même rassuré et cadeau. Finalement, on va se demander à qui on envoie ça. Est-ce qu'on envoie ça à Israël ou est-ce qu'on envoie ça à l'État palestinien à travers le ministre des Finances israélien? Ce que je vous dis là, je l'ai dit en public à Paris devant 3000 personnes. D'ailleurs, il y a eu une tempête. Bien sûr, vous imaginez. Il est mis au point dans les journaux. Les responsables de la Maghbit ont juré que l'argent qu'ils envoient n'ira pas aux Palestiniens. Allez savoir. Hein, il y a une circulation des biens à travers le ministre des Finances, actuel, bien sûr. Je suis en train de vous suggérer la rébellion civile. Bon, ça c'est un autre problème. Enfin, c'est le problème. Bon, voilà encore une autre. Vous voyez que le problème commence, si vous voulez, les contours du problème à être clairs. Nous revenons de la galoute. Alors, en tant que quoi? En tant qu'Abraham, avec le cheminement d'Abraham, les péripéties d'Abraham, Ishmaël nous attend au tournant. En tant que Jacob, avec la tentation d'y retourner si ça ne marche pas, alors là, il y a l'Égypte qui nous attend au tournant. Okay. Pour vous dire ceci, que toutes ces tendances qui travaillent la société israélienne, et que chez Mekomemi ou Montanou, comme on dit en français, qui nous indignent, n'est-ce pas, eh bien, nous les lisons dans l'histoire d'Israël, dans la Torah. Encore une fois, c'est pas tellement pour vous enlever les soucis, mais c'est pour les remettre à leur place. Ça veut dire qu'il est normal que lorsque les Juifs sont tordus, ils sont tordus comme ça. Je ne sais pas si c'est clair ce sujet-là. Mais je voudrais revenir là-dessus. Ce que je veux dire, c'est que s'il y a des raisons de désespérance, on ne savait pas que ça menait là, parce qu'on ne savait pas qu'il y avait cette éventualité-là. Or, cette éventualité-là, elle nous est racontée. Seulement, on ne sait pas ce qu'on lit, on ne sait pas ce qu'on étudie. Alors, je voudrais ouvrir une parenthèse pour me brancher sur ce que j'ai dit tout à l'heure. De façon un peu plus explicite, on a séparé la Torah comme mitzvot de la Torah comme enseignement, de la Torah comme éclairage de l'histoire du monde à travers l'histoire d'Israël telle que Dieu la voit. Et on cherche, dans ce qu'on appelle un shikul da'at, une opinion politique extérieure à la Torah, et qu'avec une espèce de mauvaise foi totale, on appelle ça da'at Torah, mais ailleurs que dans la Torah, ce que la Torah dit, ce qu'il faut faire dans cette histoire. Est-ce que c'est plus clair, hein? C'est-à-dire, c'est très grave ce que je suis en train de vous dire là. C'est qu'on est entre les mains d'imposteurs. Et relisez les... enfin, je vous faisais allusion à tout cela pendant des années. Mais maintenant, les résultats sont là. Pourquoi on en est là? C'est parce que un parti orthodoxe non sioniste a ajouté son... Comment on appelle ça en français? Le mot échappe. Comment on dit, ne pas voter ni pour ni contre. Son abstention aux voix arabes. Alors Rabin a pu dire au monde entier, j'ai une majorité confortable. N'est-ce pas? C'est clair. Enfin, c'est vraiment l'imposture absolue. Qui sont responsables? Les rabbins. Alors vous voyez à quel point je craignais d'avoir raison tous ces mots et toutes ces allusions. Précédente. Et si il ne se passe pas quelque chose, il risque d'y avoir vraiment une catastrophe. Or, ça en prend le chemin. Ça en prend le chemin que Ch'as fait tout ce qu'il peut pour qu'on lui donne le moyen de rejoindre la coalition. Donc, il y a une seule possibilité, c'est de trouver les moyens de le chasser. Si vous avez des amis dans ces milieux-là, essayer de leur faire comprendre leur responsabilité. Parce que c'est une chose de le comprendre soi-même, et c'est une autre chose de laisser faire les autres sans leur mettre le point sur les i. J'ai dit les points, pas les points. Bien. Alors maintenant, j'en arrive aux deux dernières citations que nous allons voir ensemble. Après, vous aurez la parole si vous avez une précision à demander. Alors, très rapidement, ce que dit la Aveda de Pessah. Chakosuboru, Fichev et Taketz. Voilà de quoi il s'agit. Lorsque Dieu a annoncé à Abraham l'éventualité de l'exil, il a dit Yadoar Tedakir Iezaracha. Savoir, tu sauras que ta postérité sera dans un pays qui n'est pas le leur, 400 ans. Alors, le Midrash va poser la question suivante. Depuis la descente de Jacob en exil, en Égypte, en exil d'Égypte, jusqu'à la sortie d'Égypte, il n'y a que 210 ans. Et le verset est très clair. C'est 210 ans que sont restés les enfants d'Israël dans le pays d'Égypte. Mais il y a deux autres versets. Il y a un verset qui dit 400 ans, le nôtre, et il y a un verset qui dit 430 ans. Alors la réponse est la suivante. Depuis que Dieu a dit à Abraham, savoir tu sauras que ta descendance, il s'est passé 430 ans jusqu'à la sortie d'Égypte. Depuis la naissance d'Isaac, il s'est passé 400 ans jusqu'à la sortie d'Égypte. Depuis la descente de Jacob en Égypte, il s'est passé 210 ans. Redou, Shana, on dit Redou, ça fait... Redou Mitzrayma, Redou 210. Resh, Dalet, Yud. Vav, Sira. Ça fait 206, 4, ça fait 210. Et alors, l'explication du Midrash, c'est que le verset a dit Zaracha. Or, comme nous savons que la postérité d'Abraham n'est comptée que par Isaac, qui beitzrak, ikarelecha, Zarah, par conséquent, c'est par le mérite d'Isaac qui a pris sur lui, dès sa naissance, d'être en exil chez lui, que 190 ans ont été économisés des 400 ans de l'exil prévu théoriquement. L'explication est claire, suffisante. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contradiction entre les trois versets, ils sont situés à des moments différents du temps. Ça veut dire, donc je reprends la phrase de la Gada, chez Akadosh Baruch Hu Chishev et Takes, que Dieu a compté la fin en comptant le commencement. C'est-à-dire qu'il a fait coïncider la fin à la fin des 210 ans en comptant le commencement des 400 ans à la naissance d'Isaac. C'est clair ? Or, je reprends la phrase. C'est clair pour tout le monde, okay ? Je reprends la phrase. Chez Akadosh Baruch Hu Chishev et Takes. Le mot de Ketz, qui signifie la fin des temps d'exil, pour valeur numérique 190. Bon, alors nous avons un verset dans l'histoire d'Isaac, lorsque dans la paracha de Toldot, Rivka dit à Isaac, ça on l'a étudié la semaine dernière dans l'étude de la paracha, Katzti bechayai mi pene benot chet. J'ai ma faim dans ma vie à cause des filles de chet. Vous verrez dans la Torah, le mot de Katzti est écrit avec un petit kouf. Alors, ce mot de Katzti bechayai nous renvoie à l'identité d'Isaac. Regardez bien, le nom de Yitzhak, il y a Yud, Tzadé, Kouf, Chet. Chet Kouf, Yitzhak. C'est le mot Ketz et le mot Chay, entremêlés. C'est-à-dire, il y a dans l'identité d'Isaac son destin d'identité, sa destinée d'identité, son goral. Il est dans son identité, il y a un mixte, cherche un autre mot, pas un mélange, mais un chilouf. Comment on dit chilouf? J'entends pas. Attends, que non, qu'est-ce que ça dit? Non, avant ça, tu as dit un autre mot. Mais c'est pas un changement, chilouf. C'est pour ça que je voulais corriger. Un chilouf, c'est un amalgame, c'est mieux, chilouf. Bon, vous avez compris en hébreu, un chiloup de Ketz et de Chay. Il a mélangé dans son identité la mort et la vie. Katzti bechayai, vous voyez, mon Ketz est dans mon Chayim. Ketz, Chay. Alors, il va donner tout le Ketz à Esaü. L'identité, elle les a eues, c'est d'être constamment, la fin est arrivée. Regardez que sa messianité, c'est une messianité qui est déjà arrivée. Talou auto à la quête. Comme on pourrait dire à propos de l'autre. Et il a donné tout quête à Esav et tout chai à Jacob. C'est ce qu'on dit, Yaakov Avinu l'omet. Parce que son identité, c'est chai séparé de quête. Dans l'histoire de Jacob, comme Jacob, il n'y a pas de quête. Il n'y a rien que chai. C'est pour ça, lorsque Jacob a voulu révéler le quête à ses enfants, la prophétie l'a quitté. Ça ne concerne pas le quête. En tant que fils de Jacob, il n'y a pas de quête. C'est en tant que fils d'Isaac que nous aurons un quête. C'est par le mérite d'Isaac qu'il y a la fin de la galoute. En tant que fils de Jacob, il n'y a pas de fin de galoute. Est-ce que c'est clair ce que je dis là ? Je vais vous le traduire en langage différent. Lorsque les Juifs disent l'année prochaine à Jérusalem, c'est sans fin. Lorsque les Juifs disent on attend le Messie, qu'est-ce que ça veut dire ? Jamais, puisqu'on attend le Messie. Vous savez que ceux qui attendent le Messie, c'est un métier d'avenir, ils sont tranquilles. Chaque fois que c'est une traite sur l'éternité, ça s'appelle en français les calendes grecques. C'est très grave ce que je vous dis là. Parce que ceux qui attendent le Messie, dès que ça commence à fonctionner, ils se cherchent des alibis pour dire non, j'attends le Messie. La preuve. Je ne vais pas vous rappeler à quel point c'est massif les événements qui ont fait que les Juifs, au bout de 2000 ans, ont pu revenir en Eretz Israël et le monde entier s'est déchaîné contre eux. Et vous avez des Juifs pieux qui attendent le Messie, il n'y a pas de signe. Vous avez compris le problème. C'est très grave ça. Ça, c'est l'identité Jacob. Il y a une telle permanence de l'élan vital qu'on ne voit pas la fin. Et je connais beaucoup de Juifs de diaspora qui portent cette force-là. C'est sans fin. Et puis qui ne collaborent pas du tout à ce qui se passe ici parce que leur souhait et leur non-foi coïncident. Ça ne peut pas réussir, donc ça ne réussira pas, donc on continue ailleurs. Mais ça veut dire que cette affirmation l'année prochaine, « Ayom im bekolot ishma'u » c'est des bondieuseries sans aucune sincérité. Ça veut dire qu'au fond, quand le Midrash dit que dans le nom des enfants de Jacob, en tant que Jacob, il n'y a pas la lettre Kouf, il n'y a pas la lettre Tzadé, cherchez, prenez Reuben, Shimon, les 12 noms, il n'y a ni Kouf ni Tzadé, il n'y a pas de Ketz. Okay? Ça veut dire que le messianisme juif diasporique n'est pas sincère. Il est éperdument sincère à condition de rester abstrait. Dès qu'il devient concret, on attend le Messie. Et ce que je vous dis là est grave. Okay? C'est une accusation que l'histoire a portée. Est-ce que c'est sincère? Si on continue à attendre alors que c'est déjà arrivé, c'est qu'on n'attendait jamais, on n'attendait pas. On était en train d'attendre. Reprenez la. Qu'est-ce qu'on dit dans la prière? Ramène-nous à Sion, ramène-nous à Sion 3 par jour. Je vous cite Judas Lévi. Quand le cousin arrive, il dit, qu'est-ce que tu me racontes avec Eretz Israël? Et qu'est-ce que tu fais là chez moi? Qu'est-ce qu'a dit Judas Lévi? Tu m'as fait honte en disant la vérité. Et aujourd'hui, est-ce que c'est difficile de prendre un billet d'Elal pour arriver ici? Qu'est-ce que ça veut dire, on attend le Messie? Je veux dire à quoi je pense. Hein? Montrez-moi où c'est écrit qu'il faut attendre le Messie pour venir en Israël. Montrez-moi où c'est écrit. C'est écrit dans les protocoles de chasse, dans les protocoles de Yadut HaTorah, de Agudat Israël et de Degel HaTorah. C'est dommage. J'ai chez moi, mais rappelez-moi, je vous l'apporte un jour, la première brochure du mouvement Yeshurun, juste après la guerre, en France. Vous savez encore ce que c'était le mouvement Yeshurun ? Non, c'était le mouvement des jeunes de l'Agudat Israël de Suisse, qui s'est installé en France après la guerre. Il y a un mamar et un article qui dit c'est pas évident qu'un mitzvah d'habiter avec Israël, on peut construire le pays en envoyant de l'argent aux yeshivas d'Eretz Israël. Et c'est des gdolés Israël qui ont signé ça. Alors ça veut dire pendant 2000 ans, on a attendu la possibilité de revenir. Et maintenant que c'est possible et qu'il faut, alors on s'invente un alibi qui n'existe pas. On attend le Messie. Où c'est écrit ça? Je vous dirai plus. Ça, je vous répète ce que vous savez déjà. Le verset qui dit que Dieu rassemble les exilés dit que c'est Dieu qui rassemble les exilés. Il n'y a aucune allusion au Messie. C'est quand les exilés se rassemblent que le Messie apparaît. Sinon, essayez de me raconter comment ça peut se passer. Le Messie arrive quelque part et il leur dit « Allez, mes amis, on s'en va. » C'est comme ça que ça s'est passé. Dire chaque fois que s'est levé un juif pour dire « C'est moi, venez avec moi », ça a échoué. La première fois où ça réussit, c'est quand il n'y a pas eu de Messie, faux Messie. C'est quand le peuple a décidé d'aller avec la galoute en rentre. Alors le programme a commencé à fonctionner avec l'hostilité du monde entier. Mais je veux dire plus. Il y a une phrase de... Je répète ce que je dis là, c'est important. Chaque fois que quelqu'un a dit « Je suis le Messie, suivez-moi », ça a échoué. Et ce n'est que lorsque le sionisme est apparu, surtout pas de faux Messie, Alia, là ça réussit 2000 ans après. Est-ce que c'est clair? Le seul messianisme cachère, c'est le sionisme. Tous les autres, c'est des faux messianismes. Et dans la tefila de Shabbat et de Yom Tov, regardez bien dans le Yotzer, avant le Kriyat Shema, qu'est-ce qu'on dit? Efes biltecha goalenu limot amashiach. Personne d'autre que toi, notre libérateur, c'est Atahou, Avinu, Goalenu, au temps du Messie. Et le Messie, Efes. Mais bien qu'il ne s'agit pas du Messie dans le rassemblement des exilés. Et encore une fois, je vous pose la question, Stam, montrez-moi un texte quelconque où ce serait dit comme ça. Il n'y en a pas. Et alors, ça, je reviens au Midrash de Jacob voulant prophétiser la fin à ses enfants, il ne trouve pas la fin. Je vous le formule en termes historiques. Hein. Voilà comment dit le Midrash. Lorsqu'il s'est aperçu qu'il ne pouvait pas leur révéler le Ketz, il a dit ceci dans le Tanhuma Yashan, ce Midrash. Shema Yeshbachem Het. Peut-être y a-t-il parmi vous une faute. Alors ils se sont levés, tous ensemble, ils ont dit Shema Israël, Hashem Elkenu, Hashem Echa. Ça veut dire écoute Israël, en s'adressant à leur père Jacob, Hashem qui est notre Dieu, c'est le même pour tous, il est un. Il n'y a pas de faute, parce que la faute en Israël, c'est une faute d'unité. Puisque l'idéal d'Israël, c'est l'idéal d'unité. Qu'est-ce que c'est? La faute propre à Israël, la faute d'unité. Il dit non, il n'y a pas de faute. Alors, j'interprète le Midrash. Jacob leur a dit, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de faute? On va vérifier. Il a pris les noms de ses 12 enfants et les a épelés. Il n'a pas trouvé la lettre Het dans les noms de ses 12 enfants. Il n'y a pas de faute. Israël est innocent. Alors qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi le Messie n'arrive pas? Pourquoi la fin de l'exil n'arrive pas? C'est parce qu'il n'y a pas de Ketz. En vérifiant qu'il n'y a pas la lettre Het, il a vérifié, il a découvert qu'il n'y a ni Kouf ni Tzadé. Alors ça, c'est le Midrash. Hein? Il n'y a pas de Ketz. Alors il ne peut pas prophétiser le Ketz. Grâce à Dieu, Isaac, il y a le Ketz dedans. Alors en tant que fils d'Isaac, qui n'a jamais quitté Israël, on a le droit de revenir. Mais Jacob, il ne revient pas. Il meurt en galoute. Va écrivez-vous, il aimait Israël la mout. Hein? Est-ce que c'est bien clair? Alors, vous voyez, dans le piège de qui on est tombé? Dans le piège de gens qui ont inventé une autre religion qui consiste à attendre le Messie pour venir à Jérusalem. Et alors, ils sont à Jérusalem pour dire Kaddish en hébreu, mais il est évident que ce n'est pas la fin des temps d'exil, donc on peut rendre la terre à Ishmaël. Voilà dans le piège de qui on est tombé. Non, je reviens à ce que je dis, c'est formulé de manière simple, c'est pas moi qui le dis, c'est ce Midrash qui le dit. Ça veut dire la prétention messianique de la galoute est fausse, c'est un faux messianisme. Quand on dit quand le Messie viendra, ça veut dire qu'on veut dire jamais, ça veut dire qu'on n'y croit pas. La preuve, c'est que dès que ça doit fonctionner, on est contre. C'est grave ce que je vous dis là, hein? Et personne qui me contredit. Non, le problème, c'est qu'il n'y a pas de texte qui nous dit que c'est le Messie qui doit ramener les exilés. Je me rappelle cette histoire que nous a raconté le Rav Kook, qu'une fois, une petite ville de Pologne, on était tellement pieux qu'on a décidé de prendre un batelan, quelqu'un qui n'avait rien à faire, pour le mettre comme guetteur pour attendre le Messie. Et alors, un jour, le Messie est arrivé. Alors, le guetteur qui prend ses jambes à son cou, il va sonner les cloches à la synagogue, et puis, rassemblement des juifs pieux à la synagogue, le Messie arrive, qu'est-ce qu'on fait? Et ça commence à discuter. Et alors, pendant que ça discutait, le Messie arrive dans la rue, et avec le voyou qui n'était pas de la synagogue, les sionistes. Et alors, il s'approche d'eux, et puis leur demande qui vous êtes. Il dit, on est les juifs. Qu'est-ce que vous attendez? Il dit, on attend d'aller en Eretz Israël. Il dit, allez, je vous emmène. Et sur la route, il leur explique son programme. Kibbutzim, Ishtadrut, et tout le reste. Et puis, ils s'en vont. Et finalement, les juifs pieux, ils avaient fini de discuter à la synagogue. Ils descendent avec talit, bas blanc, les gants noirs, le denier. Et puis, ils se mettent à courir. Messie, attends-nous, Messie, attends-nous. Alors le Messie qui se tourne vers la Shomer HaTzair, dit, qui c'est ça? Alors la Shomer HaTzair qui dit, écoute, Messie, sois gentil. Attends-les, c'est aussi des juifs. Mais c'est ça l'histoire qu'ils sont en train de vivre. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Alors voilà, voilà ce qu'on apprend. Il y a Kizak qui est sincère dans cette histoire, le Gibor. Okay, parce qu'il y a une dimension d'identité propre à l'histoire d'Israël qui travaille en Abraham, et ça c'est Ishmaël qui nous attend au tournant, et qui travaille en Jacob, ça c'est l'Égypte, enfin l'exil qui nous attend au tournant, c'est Galouti. Ceux qui sont des sionistes sincères, normaux, parce que juifs, le temps est arrivé, Eretz Israël, c'est Eretz Israël. Ceux-là n'arriveront jamais à comprendre ce qui se passe dans la tête des autres. Hein? Mais ce n'est pas une raison, parce qu'on est gauchiste, qu'il faut abandonner Israël, le chesed d'Abraham. Ce n'est pas une raison, parce qu'on est dati, haredi, d'abandonner Israël, parce que c'est un messianisme faux, un messianisme qui n'existe pas. Qu'est-ce qu'ils attendent? Ils n'en savent rien. Hein? Et si on revient au texte, d'où est sorti le Shulchan Aruch qui font semblant de pratiquer de façon crispée, et c'est pas pour rien que c'est crispé, et bien, où c'est écrit ça, qu'il faut attendre le Messie pour revenir en Eretz Israël? Vous voyez les légendes qui mettent 2000 ans pour amener à ces impasses. C'est une querelle qu'on avait fait à Maïmonide, que c'est Dieu qui ramène les exilés et pas le Messie, c'est Maïmonide qui a raison. De la même manière que c'est Dieu qui ressuscite les morts et c'est pas le Messie. Imaginez, Lazare, lève-toi et marche. Ça, c'est les chrétiens qui font, qui transforment leur Messie en magicien qui fait traverser les murs à des cadavres. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et alors, d'ailleurs, il me semble bien que Maïmonide a formulé ça comme ça pour faire pièce aux chrétiens. Voilà dans quelle situation on est, donc il faut ouvrir les yeux. Si les événements de septembre ne s'étaient pas passés comme ils s'étaient passés, comme ils se sont passés, je n'aurais pas parlé aussi crûment. Mais au fond, si vous avez bien compris, bien que en bet midrash bli chidouche, ça fait 5 ans que je vous parle de la même chose. C'est vrai ou pas? Et finalement, on y est arrivé. Alors je crois que si vous me posez la question, Mahala, qu'est-ce qui va se passer? Ben, c'est toujours à kol tzafouy va reshut netuna. Tout est contemplé par Dieu. Tzafouy, tzapot. C'est pas seulement le pshat habituel, tout est prévu. Hein. Ça veut dire, il y a quelqu'un qui voit, qui nous juge. Hein. Et pourtant, la permission est donnée jusqu'à une certaine limite, bien sûr. Et alors, donc, de deux choses. Ou bien il arrive un événement qui fait que le gouvernement tombe, alors il faut préparer les élections. Ou bien il n'arrivera pas d'événement, et que d'ici quelques semaines, il faudra commencer à songer à la guerre civile. Alors à ce moment-là, la première chose, c'est de refuser d'aller au Milouim, pour quelque raison que ce soit. Au Milouim, de telle sorte que ça commence à s'amorcer, le fait que ça se secoue. Mais surtout, faites bien attention, ne demandez jamais au rabbin.